dans sa compte avec Éric Auziel.
Éric, comment vas-tu, mon cher ami?
Toujours aussi bien que tantôt.
Merveilleux. Ceux qui amènent leur game dans la game, ça part de deux gars qui vont s'affronter dans cette série-là de première ronde. C'est Spencer Carberry et Martin Saint-Louis. Il y en a un que son nom est écrit sur le Jack Adams et l'autre qui devrait être nominé également.
Ouais. Puis ça me fascine, ces deux gars-là, parce qu'ils ont un parcours complètement différent. Puis je veux te mettre en contexte, Greg et Olivier, puis à nos auditeurs. Tu sais, les dieux du stade, ce sont les athlètes. Tu sais, puis on 95% de nos discussions sont basées sur les athlètes, les équipes, mais les athlètes. Mais il y a quand même une importance du leadership. Puis pour ceux qui ont vu le film Miracle on Ice, qui était entraîné, piloté par Herb Brooks, cet entraîneur américain qui ont accompli un miracle contre les Russes en demi-finale. Je vais vous mettre en contexte rapidement. Herb Brooks était aussi un joueur de hockey qui, en 1960, a été le dernier joueur coupé de l'édition de l'équipe olympique. Les Américains ont gagné les Jeux olympiques en 1960 et ont obtenu la médaille d'or. Quand il a été coupé, il a pleuré, il a appelé son père. Son père a dit « Tu vas arrêter de pleurer, tu vas retourner dans le vestiaire. » Tu vas aller remercier ton coach, tu vas aller saluer les coéquipiers, puis tu vas leur dire bonne chance, tu t'en viens à la maison. Fait que là, il est emmené à la maison, ils ont regardé le tournoi à la télévision. Quand les Américains ont gagné la médaille d'or, le dernier match, son père s'est retourné vers Herb Brooks, il a dit, puis finalement, le coach, as-tu pris la bonne décision de te couper? Tu comprends? Fait qu'il est en train d'y montrer une leçon. Herb Brooks est en train de développer des outils pour devenir un leader. 20 ans plus tard, c'est lui qui est le coach de cette fameuse équipe-là. Et il doit couper le dernier gars qui s'appelle Ralph Cox. Il fait venir dans son bureau, il dit « Ralph, t'es un joueur fabuleux, mais je suis obligé de te couper. » Et il pleure parce qu'il a vécu la même chose. Fait qu'il coupe Ralph Cox. Et quand l'équipe américaine gagne contre les Russes avec quelques secondes à faire, il y a une pensée pour Ralph Cox. Fait que ça te démontre à quel point ils sont vécus. Ce qu'il dit, lui, Herb Brooks, c'est « Tu dois faire des sacrifices pour l'inconnu. » T'as pas le choix. Puis dans le cas de Carberry et Martin Saint-Louis, à des façons différentes, ils ont fait la même chose. Puis ça me fascine parce que Carberry, c'est un gars de la East Coast League. C'est un gars de la Ligue de la côte est américaine, qui est le circuit le moins prestigieux en Amérique du Nord. Lui, c'est un joueur qui a joué là toute sa vie. Et c'est un coach qui a entraîné là principalement avant de tomber comme assistant avec les Maple Leafs pendant 2 ans. Puis Martin Saint-Louis, ben, il a passé en avant de la ligne. Puis, il a appris sur le tas, puis il amène quelque chose de différent. Fait que j'ai hâte de voir cette rivalité entre les deux, parce que c'est clair, là, Carberry, on le sait, il aime ça changer ses trios. Il dit tout le temps, moi, ouais, mon premier trio, il est pas fixe. Ça va dépendre quelle est la paire de défenseurs sur la mise au jeu de l'autre côté, c'est où la mise au jeu se situe, comment ça se passe présentement dans le match. C'est un gars qui est très, très, très réactif pendant un match. Fait que je trouve que c'est pour moi... aussi un duel fascinant en plus de ce qui se passe à la glace.
Ouais, puis on en a parlé ensemble, Éric, il y a quelques semaines. C'est un duo d'entraîneurs mais ces deux-là font partie de la nouvelle génération. Ouais. Renaud Lavoie l'a dit il y a quelques mois, ici même en ondes. Tu sais, oui, dans la reconstruction des Rangers, il y avait des gars qui voulaient aller jouer à Madison Square Garden. Et je me souviens des paroles de Renaud qui dit « Notre Madison Square Garden, à nous autres, là, il s'appelle Martin Saint-Louis. » Et il y a des joueurs qui veulent venir jouer pour lui. Et Caden Goulet l'a dit cette année, « On joue pour Marty, pour notre coach. » Il semble extrêmement apprécié. Il a relancé des gars. Il a lancé des gars aussi, leur carrière et de la façon qu'il les a coachés. Puis Spencer Carberry, chapeau à lui. T'sais, j'ai entendu des entrevues avec Dylan Strome, Dowd également, et tout le monde dit la même chose. Les nouveaux gars qui sont amenés, c'est comme si ce vestiaire-là avait toujours été ensemble. Ils ont amené 8 nouveaux gars dans ce vestiaire-là, Éric. Et
ouais.
Rappelle-toi ouais. L'entrevue de Mathias, qu'on salue, notre ami Mathias, qui a fait avec Pierre-Luc Dubois. Et Spencer Carberry l'a appelé cet été juste pour jaser. Hey, comment ça va ouais. La vie, toi? Ça va-tu à Washington? Puis avec ta femme, nanana, tout le monde va bien, tu sais. Il dit, j'avais jamais eu ça dans ma carrière. Un coach qui m'appelle pour me connaître. Regardez la saison de Pierre-Luc Dubois cette année. Je pense que là, vous allez le voir en série, là. C'est un solide deuxième centre dans la Ligue nationale. Un des meilleurs deuxième centres qu'on a dans cette ligue-là suite à cette saison-là. Fait que chapeau à ces deux gars-là. Puis ça va être tout un duel à surveiller, effectivement.
Oui, puis tu sais, la défaite en première ronde pour Carberry, ben ça lui a permis, ça lui permet, ce que je disais tantôt, faire des sacrifices, donc perdre pour l'inconnu, pour ce qui s'en vient, perdre pour mieux apprendre. Ben, sa défaite en première ronde, tu sais, Martin Saint-Louis, il n'a jamais encore entraîné, il n'a jamais été coach dans les séries, il a été comme joueur, il a beaucoup d'expérience, mais Carberry, l'année passée, là, sa défaite en première ronde, ça va lui servir cette année, là. Puis moi, je pense qu'un GM, quand tu as un gars comme Carberry ou un Martin Saint-Louis, puis tu te dis, j'ai la possibilité d'aller chercher un Pierre-Luc Dubois qui a des défis à date partout où il passe. Est-ce que j'ai la bonne type de personnalité dans mon coach pour pouvoir travailler avec lui? Clairement, la réponse est oui, là, on le voit là. Pas juste avec Pierre-Luc Dubois, avec d'autres aussi. Puis Martin aussi. Tu sais, Martin, là, on va le dire, les gars, là, Olivier, je sais pas ce que tu en penses. Il a fait un travail fabuleux avec Patrick Laine, là. Pas facile à gérer, Patrick, là.
Non, et c'est vraiment ça la force de Martin Saint-Louis, c'est que il est capable de s'adapter à tous ses joueurs. Que ce soit un gars hyper talentueux comme Patrick Laine, qui est un être clairement peut-être incompris, on va dire, oui. Ou un petit grinder comme Brendan Gallagher, Martin Saint-Louis a déjà occupé tous ces rôles-là dans sa carrière.
Ben oui.
Il a commencé sur le quatrième trio, il a fini meilleur pointeur de la ligue, pas repêché, ballotage. Donc, il a cette capacité-là à comprendre la réalité des différents joueurs. Ça paraît dans la façon de communiquer avec eux, dans la façon de apprendre. Et clairement, les joueurs apprécient ça. Puis c'est une grande force pour un coach comme lui, là.
Absolument. Tu fais bien de le noter, Eric.
C'est hypothétique, là, je lance pas de fausses nouvelles. Là. Mais admettons que match numéro 2, match numéro 3, il doit déplacer Slaf du premier trio au maître Demidov. Admettons. C'est clair qu'il ne le fera pas sans avoir au préalable parlé avec Slafkovski, lui avoir expliqué, puis lui avoir dit « Écoute, là, change pas ta game, c'est juste que là, on a besoin, l'équipe passe avant, tu comprends? » Alors qu'un autre type d'entraîneur le ferait sans jamais expliquer aux joueurs pourquoi il le fait. Puis là, je vais donner une situation hypothétique qui pourrait être une situation réelle aussi. Là.
Éric, es-tu prêt pour tes prédictions?
Tout à fait, mon ami.
Avant que... OK, non, on va y aller, attends une minute, parce que je te réserve un petit extrait. Là.
Vas-y.
Colorado contre Dallas. Je vais entendre ta prédiction là-dessus.
J'avais prédit au début de l'année que je voyais les Stars en finale de la Coupe Stanley. Et même, je m'attendais à ce qu'ils gagnent la Coupe Stanley. Malheureusement, je trouve que c'est une année difficile pour les Stars de Dallas. Avec Eskanen qui ne sera pas là en première ronde. Robertson, on ne sait pas les gars, mais il ne sera pas là en tout cas la première semaine. Ça commence aujourd'hui, donc je ne vois pas comment Dallas peut sortir de cette première ronde contre l'Avalanche. Puis je ne mets même pas Landeskog comme facteur important parce qu'il y en a d'autres qui disent « ça va être un défi, le genou de Landeskog, là pour cette rigueur des séries. » On verra. C'est une belle histoire, mais je pense que l'Avalanche sont avec Makar, avec la profondeur qu'ils ont, je pense que l'Avalanche vont l'emporter contre les Stars.
En combien de matchs?
J'ai mis l'Avalanche en 6.
Colorado en 6. OK, excellent. Winnipeg contre Saint-Louis maintenant.
Voilà ma surprise de la première ronde.
Ah oui, hein?
Ouais, pour moi, c'est le tremblement de terre de la première ronde. Les Jets, on peut rien leur reprocher. Hellebuck a été encore fabuleux. Je veux dire, c'est une belle équipe. Rappelez-vous, il y a à peine 2-3 ans, on disait que c'était un vestiaire pourri. Paul Maurice a quitté l'équipe en plein milieu de saison. On dit, je peux plus rien faire avec cette équipe-là. Tu comprends?
Incroyable.
Alors, tu sais, ça montre que des fois, l'ironie de la vie. Alors, les Jets, on peut rien leur reprocher. Il y en a plusieurs qui souhaitent que ça soit la première équipe canadienne depuis les Canadiens de Montréal qui gagnent la Coupe. Alors, mais, malgré tout ça, Robert Thomas est en feu depuis quelques mois. C'est un des gars qui a le plus de points. J'ai vu quelques matchs, les Blues sont complets, sont en confiance. Montgomery a bien l'équipe, là, bien à la façon qu'il veut que cette équipe le joue. Billington, pour qui on avait un doute immense depuis les Quatre Nations ou depuis la finale des Quatre Nations, il a dissipé tous les doutes. Et les Blues l'ont déjà fait le parcours, les gars. Ils connaissent le parcours. Ils savent. Pas tous les joueurs de l'équipe, mais quelques joueurs de l'équipe. Fait que moi, j'y vais avec les Blues. C'est pas mon souhait, mais c'est ce que je pense qui va arriver.
En combien?
J'ai mis les Blues en 6.
Ah, oui.
Ouais.
Okay. Golden Knights, Wild.
Hey, le Wild, c'est toute une équipe de hockey. C'est une belle équipe de hockey. Malgré ça, on n'en parle pas, là. Mais Vegas, c'est toute une année. Et moi, je pense que Vegas va l'emporter, mais en 7. Parce que je le dis, le Wild ne seront pas faciles. Moi, j'ai mis Vegas en 7.
Là, avant que tu donnes ta prédiction pour ta prochaine série, là, t'es mieux de faire attention à ce que tu dis. Là.
Écoutez-moi bien mes deux taouins. Là.
Les Kings contre les Oilers.
Les Kings en 7.
Ah, that's my boy! Yes!
Les Kings en 7. C'est assez, là. C'est assez. C'est à quatrième. Corrige-moi, je me trompe. Quatrième fois de suite qu'ils se rencontrent en série, là.
Ouais, quatrième fois de suite, ça a fini 7-6-5 pour les Oilers.
Ouais.
Là, je pense qu'on vire ça de bord cette année. En fait, pas,
ouais,
je pense.
Ouais, là, c'est assez.
Hey, je vous dis qu'on vire ça de bord.
Dans le filet, les Kings ont l'avantage. Je pense qu'un peu, il y a 922 de moyenne, puis Skinner, il y a 896. Je pense que les Oilers sont fatigués. Je pense qu'il leur manque encore ce fameux défenseur fiable qui est capable de jouer offensivement et qui est très bon défensivement. Elcombe est blessé, ça c'est important. Donc, je le sais, on a deux méga vedettes en Draisaitl, qui a encore une machine à compter des buts. McDavid, qui est peut-être le meilleur joueur de hockey au monde. Mais je pense que les Kings l'emportent en 7. Et ils ont l'avantage, la patinoire. J'ai été voir les Kings à domicile. Ils sont excellents. Fait que j'y vais avec les Kings.
Ils ont perdu 5 matchs cette année à maison. C'est pas plus compliqué que ça.
C'est extraordinaire. Extraordinaire.
La bataille Ontario-Toronto-Ottawa.
Même chose que les Kings, là, c'est assez, là, les Leafs, c'est assez, là, ils vont l'emporter en 7. Je pense qu'ils ont le bon coach pour cette équipe-là. Ils sont améliorés défensivement, ils sont améliorés dans le filet. Je pense que Brady Tkachuk, aussi bon est-il, je pense qu'il est quand même hypothéqué. Je pense que à la longue, ils ont plus de talent du côté des Leafs et je pense qu'on sous-estime, je comprends pourquoi, mais on sous-estime Matthews, Marner, puis tous ces grandes vedettes offensives-là en série. Moi, j'y vais avec les Leafs en 7.
N'oubliez pas l'année passée, là, pas de gardien, Matthews blessé et Willie Stiles blessé. Donc, on n'a pas ça cette année. Caroline contre New Jersey maintenant.
Pas de Jack Hughes. Les Devils, une belle équipe, une belle histoire. Je les voyais plus impressionnants cette année. J'y vais avec Caroline en 5. Caroline à domicile est presque imbattable. Ils vont être reposés. Et puis, moi, j'y vais Caroline en 5.
La bataille de la Floride, Tampa Bay contre Floride.
Dis-tu qu'est-ce qu'il manque aux Panthers cette année? Il manque Brandon Montour, big time. Mm-hmm. J'y vais avec le Lightning de Tampa Bay en 5.
Ouf!
En 5. J'ai pas aimé. Hey! Tu sais, tu parlais tantôt, les gens qui disaient le Canadien est en série parce que la Caroline a reposé ses joueurs. Le Canadien est en série parce qu'ils ont gagné 4 fois contre les Panthers cette année. Tu m'avais dit au début de l'année, ils vont gagner 4 fois contre les champions, dont le dernier match qui est presque miraculeux, là, avec quelques secondes à faire puis Suzuki en supplémentaire.
Ouais.
Fait que la voilà la raison pour moi pourquoi le Canadien est en série. Les Panthers n'ont pas d'affaire à perdre 4 parties contre le Canadien de Montréal.
Je ne peux pas être plus d'accord avec toi. J'essaie de ne pas commenter parce qu'Oli et moi ferons nos prédictions demain dans l'Est. Alors, je dis rien maintenant. Montréal-Washington.
L'amoureux de hockey, le gars qui veut voir la belle histoire, je dirais Canadien de Montréal, mais le chroniqueur qui a un souci de d'honnêteté va y aller avec les Capitals en 6. Je pense qu'il nous manque un deuxième trio. Je pense que les Caps sont plus équilibrés. Je rappelle à tout le monde que les Capitals de Washington, c'est une tabarouette de belle histoire aussi.
Mm-hmm.
On ne s'attendait pas à ça. Je pense que... Et là, je dis ça sous toute réserve. Il faut que Logan Thompson soit dans le filet. Il faut que Protas soit de retour. Je vois les Canadiens gagner une partie en supplémentaire, un but à la demi-dov, puis je les vois gagner une partie à la régulier. Mais les Capitals sont une machine sur la route. Je les vois pas perdre 3 parties à Montréal. Alors, je pense que les Capitals vont l'emporter. Je leur donne en 6. Et je pense que les Capitals vont se rendre en finale de la Coupe Stanley. Ça va être l'Avalanche contre les Capitals en finale de la Coupe Stanley. Je vois l'Avalanche l'emporter. C'est à ce point-là à quel point je respecte les Capitals. Donc, c'est pas que le Canadien n'est pas assez bon. C'est que juste les Capitals sont tellement une force de hockey.
Tu as répondu à ma prochaine question. Tu vois l'Avalanche remporter la Coupe. Maintenant, qui est ton gagnant du trophée Conn Smythe?
Ben, si l'Avalanche l'emporte, comme je le pense, puis là, mettez pas d'argent là-dessus naturellement, je pense que ça doit être Carl Makar. C'est le meilleur joueur de cette équipe-là. Aucun doute pour moi.
Oui, il est incroyable. OK.
Parce que c'est ça, c'est comme ça, mais c'est quoi? On se parle dans 2 semaines, puis les Canadiens mènent 3-1, puis ils ont la chance de terminer ça à la maison. Tu sais, à Washington, tout est possible. Il y a des belles histoires à travers la Ligue, puis on y va avec notre feeling, j'y vais avec les stats, j'y vais avec ce que j'ai vu. Je trouve que Canadiens, On me dit qu'il y a plusieurs blessés. Mais ne perdons pas de vue que le Canadien nous a fait vivre de belles émotions. C'est pas terminé, mais l'avenir est rose pour les Canadiens de Montréal. Puis pour David Savard, là, je ne sais pas qui vous allez choisir pour le remplacer. Je reviens encore à mon idée que j'ai parlé cette saison. Une offre hostile, Noah Dobson.
Ouf. Là, tu viens d'allumer Oli, là. On dirait qu'un sapin de Noël vient de s'illuminer en studio. Là. Il est tout content.
Habituellement, Lou Lamoriello, c'est joueur agent libre avec restriction, leasing pendant la saison ou l'été d'avant.
Ça veut dire que tu fais deux offres. Tu en fais une à Noah Dobson puis l'autre à Mason McTavish. Là. C'est ça que tu es en train de me dire.
Je la ferai à Matthew Nice avant Mason McTavish.
On a un sujet pour demain, mon Eric.
Hey, on spécule, on s'amuse, ça fait pas mal, on n'est pas sur la glace, c'est pas notre argent, c'est facile à dire.
Ben oui, mais regarde, on a-tu le droit d'avoir du fun? Rêver, tu sais, ça coûte combien?
Oui, oui.
Zéro, c'est gratis.
Zéro. Hey, ça marche.
Éric, je vais être très heureux de te parler demain avant le brunch de Pâques de tout le monde. OK?
Oui, fait c'est Pâques.
Soyez là. Oui, peu. C'est Pâques.
Puis demain, les épiceries sont fermées demain.
Oui.
Mais pas le tailgate.
Non. S'il y a une affaire qui n'est pas fermée demain, c'est le tailgate. On est ouvert puis pas à peu près. Alors, soyez là. YouTube live sur les ondes de BPM aussi. Puis déjà là, tu vois, on a un débat qui arrive. Là. Moi puis Éric, on va se pogner sur les offres pour le deuxième centre. On s'en va là. Salut mon chum, passe un beau samedi.
Bon samedi à tout le monde. Bye-bye, à demain. Merci.
Bon début des séries.